With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour, je suis Clémence Bodoc.
Je suis Esther Meunier.
Vous écoutez Activiste,
une nouvelle approche de l'action politique.
Elle devrait être en classe.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
I am not a believer in climate change.
C'est papa et maman qu'on assassine.
Vous vous transformez en véritable chien de garde de la police de la pensée.
Le choc n'est pas un choc climatique.
Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
Oh, ça suffit là.
Oui, allô?
Oui, bonjour Esther.
Bonjour, Aïssa?
Oui, ça va?
Ça va très bien, merci beaucoup de m'appeler.
Oui, avec plaisir.
Bonjour, vous êtes sur Activiste et vous venez d'entendre le début de ma conversation avec Aïssa Maïga. Aïssa Maïga, c'est cette actrice aux multiples facettes. Vous avez pu la voir dans Le garçon qui dompta le vent, Les poupées russes ou Bamako. Il y a un peu plus d'un an, sur la scène des Césars, elle harponnait ses collègues.
On voudrait vous dire, on ne doit pas laisser le cinéma français tranquille.
Une phrase lancée au sein d'un discours sur le racisme qui sévit dans cette industrie. Aussi instigatrice du livre « Noir n'est pas mon métier » et du documentaire « Regard noir » qui vient de sortir sur Canal+, elle a accepté de nous donner 30 minutes de son temps pour répondre à quelques questions, par téléphone, vous l'aurez compris. C'est un format un peu plus court qu'habituellement, il y aurait encore tant à dire sur son parcours, mais j'espère néanmoins que vous saurez entendre son discours, il mérite de l'être. Bonne écoute! Pour commencer, moi j'avais envie de savoir un petit peu quelles sont les premières choses qui vous ont indignée en tant que même petite fille ou adolescente.
Toute petite fille. Ah là, comme ça, je...
Ça peut être plus tard, hein, si ouais. Ça ne vous revient pas.
Oh, ce qui m'a indignée, j'ai des souvenirs en classe d'avoir... entendu des récits sur des personnes extraordinaires. Et quand j'ai appris qu'elles avaient été assassinées, je me souviens que j'étais totalement effondrée. Et là, le premier récit dont je me souviens, c'est celui concernant Martin Luther King, parce que j'avais pas compris au début de la leçon qu'il était mort. Et donc, je me souviens que ça, c'est très difficile. Je me souviens encore plus jeune, les images des camps de concentration. En CE2. Très jeune. Voilà. Non, une incompréhension, en fait, face à la barbarie, quoi. Enfin, l'incompréhension que est naturelle à chaque enfant.
Bien sûr. Vous parlez de Martin Luther King. Ça a été une des figures qui vous ont inspiré, vous, plus tard?
Peut-être pas tant que ça, mais en tout cas, enfant, ça a été un vrai choc. De découvrir quel avait été le courage de cet homme.
Vous, aujourd'hui, vous prenez aussi la parole, que ce soit sur la scène de la cérémonie des Césars, dans un livre qui est donc « Noir n'est pas mon métier », dans les films que vous réalisez ou dans lesquels vous jouez. Comment vous avez décidé d'utiliser en quelque sorte votre position pour défendre des causes qui vous tenaient à cœur?
Mais ça a été à la source de mon désir d'actrice. Au départ, j'hésitais entre la sociologie et le jeu. Et en fait, il m'a semblé qu'avec les films, j'allais avoir la possibilité de dire des choses sur la société dans laquelle je vivais. Donc c'était là depuis le départ. Avant même que je commence ce métier, en réalité.
Aujourd'hui, vous vous considérez militante, activiste?
Oui, je dirais plus activiste parce que militante, Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas exactement quelles sont les définitions en réalité des deux. Enfin, s'ils se rejoignent ou pas. Mais en tout cas, je ne sais pas, je ne milite pas dans un parti où, voilà, je ne suis pas encartée. Je suis activiste dans le sens où j'allie mes convictions à mon métier, j'essaye d'agir en faveur de ce qui me semble être juste.
Est-ce que vous avez l'impression de faire de la politique quand vous faites ça?
Pas au sens premier, mais pour moi, l'art est politique. Donc, je dirais pas que c'est de la politique au sens de vouloir obtenir une représentation politique par le vote, ce genre de choses, pas du tout. Ça, c'est vraiment pas ce qui m'attire. En revanche, oui, l'art est presque par essence politique. Donc, oui, et puis pour moi, la politique, c'est loin d'être un vilain mot, c'est plutôt l'idée de l'intérêt général, en fait. Comment est-ce qu'on crée, par la pensée et par les actes, des choses qui permettent de mettre en place l'intérêt du plus grand nombre, quoi.
Je me demandais que ce soit dans Noir n'est pas mon métier, où il n'y a que des femmes, ou dans Regard Noir, où les femmes sont très largement majoritaires parmi les personnes qui prennent la parole. Bah voilà, c'est majoritairement des femmes noires à qui vous donnez la parole plus qu'à des hommes, en fait. Je me trompe ou...
Non, vous ne vous trompez pas. En fait, c'est vraiment l'angle. L'idée, c'était de partir de mon expérience et de nos expériences de femmes, parce qu'il me semblait que, enfin, c'était vraiment le point de départ du livre, que le fait d'être, de subir à la fois le racisme et le sexisme permettait de parler de quelque chose de plus large qu'uniquement l'expérience des femmes noires. Mais en même temps, il faut être spécifique. C'est-à-dire que, l'idée, c'est de pouvoir, comment dire, oui, sur la spécificité, je pense que c'est un passage quasiment obligé d'être en mesure de nommer les choses de façon très précise par rapport à certaines discriminations précises, et ce qui n'empêche pas du tout une pensée peut-être plus globale et plus large.
Vous parlez de spécificité, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu?
Oui, je pense que le parcours des femmes noires dans l'imaginaire français, il ne ressemble peut-être pas exactement à ce que les hommes noirs peuvent vivre, par exemple, ou à ce que les femmes blanches peuvent expérimenter. Et pour moi, il est important d'entendre ce qu'ont à dire les minorités sur l'expérience qu'elles traversent en tant que minorité bien spécifique. Parce que les luttes contre les discriminations, parfois, en France, ont été un peu diluées dans un truc un peu global qui, je pense, a freiné l'identification des discriminations spécifiques et donc leur éradication.
Donc, vous, par exemple... En tant que femme noire, vous avez souvent décrit qu'on vous assignait souvent à certains rôles.
Oui, alors ça concerne les femmes en général et les femmes racisées en particulier. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des schémas, des réflexes culturels qui s'invitent dans les fictions. Et donc souvent, en tant que femme noire, on nous a proposé une forme de... des rôles qui revenaient de manière récurrente, qui étaient soit des rôles vraiment hyper sexualisés, comme si on partait du point de, comment dire, du principe que les femmes noires avaient une sexualité ou un appétit différent des autres femmes, une sorte d'animalité, ou alors des rôles systématiquement subalternes du point de vue de la profession, ou des rôles avec des capacités intellectuelles extrêmement réduites. Bon, ça, c'est vraiment des choses qui sont là et qui sont là depuis longtemps. Sauf que moi, je ne le savais pas spécifiquement en commençant ce métier quand j'avais 20 ans. J'avais simplement envie de devenir actrice. Je voyais bien qu'il n'y avait pas d'actrice noire, mais c'est parce qu'il n'y en avait pas qu'il ne pouvait pas y en avoir dans mon esprit. Et en fait, c'est très très rapidement que je me suis rendu compte du fait qu'il y avait des systématismes et que ces rôles-là de femmes hypersexualisées ou de femmes victimes de leur culture d'origine forcément néfaste et malveillante, ou des femmes qui étaient systématiquement sauvées par des blancs qui les ramenaient vers une forme de civilisation qui était vraiment à opposer avec la barbarie supposée de la famille de ces personnages-là. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, hein. Vous me dites. Hein,
si, si, vous êtes très claire.
Ouais. Cette récurrence, moi, elle m'a interrogée. Bon, d'abord, ça m'a un peu hallucinée. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi tous ces gens qui ne se connaissaient pas écrivaient la même chose, ou presque. Et puis, ça a commencé à m'agacer très, très rapidement parce que je me suis sentie visée, en fait, insultée. J'avais vraiment l'impression qu'on stigmatisait les personnages noirs, les personnages africains, et que c'était pas possible dans l'esprit des scénaristes et des réalisateurs et des prods, etc., d'envisager qu'on pouvait avoir des vies normales, en fait. Et moi qui venais d'une famille dans laquelle il n'y avait pas de pression par rapport à qui je devais épouser, je n'ai pas été excisée, c'est pas une pratique qui a lieu dans l'ethnie d'où je viens. Enfin, du coup, je voyais bien qu'on était supposé être un vaste ensemble homogène parce que venant du même continent et que c'était très très souvent des rôles à caractère hyper négatif. Donc ça, pour moi, c'est important de le nommer parce que c'est pas spécifiquement ce que des femmes blanches vont vivre. Le sexisme qui existe dans nos métiers n'épargne pas les femmes blanches du tout. Malheureusement, l'âgisme n'épargne pas les femmes blanches. À partir de 40, 45, 50 ans, c'est extrêmement difficile pour des femmes de trouver certains rôles, mais elles ne font pas face à ce racisme qui prend une couleur spécifique. De la même manière que la façon dont les femmes asiatiques sont regardées dans le cinéma n'est pas exactement... Enfin là, c'est pas la même chose qui se joue exactement. Et c'est, pour moi, c'était important à travers le livre de donner à voir, en fait, quelle était notre expérience pour que... Bah, pour pouvoir... l'idée, c'est de passer à autre chose parce que je pense que ça n'amuse personne. On ne fait pas ce métier pour dénoncer des discriminations. On les dénonce parce qu'elles nous semblent insupportables, mais on fait ce métier parce qu'on rêve d'incarner certains types de rôles, de jouer avec certains types de réalisateurs. Et donc, quand on est amené à dénoncer... à dénoncer tout ça, là, c'est vraiment dans l'idée de le dépasser. Et moi, je ne vois pas d'autre manière pour dépasser un problème que de commencer déjà à le nommer et à entendre, à écouter ce que les personnes qui le subissent ont à en dire.
Mmh, bien sûr. Au final, de par votre métier aussi, c'est vraiment le sujet de la représentation sur lequel vous avez un impact le plus direct, j'ai l'impression.
Oui, tout à fait.
En quoi, pour vous, c'est une dimension cruciale de ce combat ? Parce qu'il y en a plein d'autres, des dimensions, mais en quoi, pour vous, cette représentation, ça change vraiment les choses, en fait ?
Parce que ça a un impact direct sur nos imaginaires et sur nos comportements. C'est l'endroit de responsabilité totale des créatifs et des décideurs dans nos métiers. C'est que les images qu'on véhicule ont un impact sur la façon dont on va percevoir certains groupes, les femmes, les gays, les trans, les hommes, enfin peu importe. La fabrication de l'imaginaire va modifier notre perception. Et au-delà de la perfection, la perception, et non pas la perfection, au-delà de cette perception, il y a ce que ça induit en termes d'impact sur l'existence des gens. Lorsque des groupes minoritaires sont surreprésentés dans des rôles à caractère négatif, comme c'est le cas des Arabes, des Noirs, des Asiatiques dans l'imaginaire des fictions en France, encore beaucoup, malheureusement, ce sont les vies de ces personnes-là, des personnes qui sont enfin perçus comme tels, qui sont impactés. Donc il ne s'agit pas de, de dire que les créatifs et les, tous les gens qui font ces métiers-là doivent remplir un, comment dire, un formulaire qui est fait à la fois de censure et de programme politique, pas du tout. Mais je crois que dès lors qu'on nomme ces choses-là et dès lors qu'on montre qu'en fait notre imaginaire il peut être beaucoup plus vaste, beaucoup plus libre finalement, ça crée aussi l'envie, une envie d'émancipation chez tout le monde, y compris chez, bah, chez des gens dont on pense qu'ils, qu'ils seraient bloqués. Moi, je j'ai pas du tout de... C'est pas un jugement... Enfin, d'abord, il n'y a rien de personnel dans ma démarche. L'idée, ça n'a jamais été de pointer du doigt des gens pour dire qu'ils se comportent mal. C'est pas, enfin, franchement, ça ne m'intéresse pas de culpabiliser les gens. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne ni dans mon travail, ni dans ma vie, etc. Mais ce que je crois profondément, c'est que en fait, on a tous à y gagner. Mmh. On a tous à y gagner parce que le, lorsque les imaginaires s'ouvrent, finalement, c'est, tout le, c'est tous les rôles et toutes les, tous les récits qui gagnent en densité, en complexité, en modernité. Et c'est ce que nous montre notamment l'arrivée des plateformes et la façon dont elles ont voulu et réussi d'ailleurs à attirer des consommateurs plus jeunes pour lesquels la question de la, la diversité des visages, c'est pas du tout un sujet.
Je me demandais, par rapport au sujet du féminisme, notamment, depuis quand, enfin déjà, il me semble que oui, mais depuis quand vous, vous revendiquez féministe ?
Mais je me revendique pas d'ailleurs, en fait.
D'accord, ok, c'était ouais. En partie dans ma question.
Parce ouais, que... j'ai pas de revendication, en fait, c'est juste quelque chose qui est là et qui est en plus... En... Enfin, moi, c'est... Je... Par contre, ce que je peux dire, c'est que le renouvellement... des luttes féministes me fait du bien parce que j'appartiens à une génération pour laquelle c'était comment dire, il y avait un dénigrement en fait à la fois des femmes et du féminisme. Mmh. Donc c'était pas du tout cool d'être féministe, c'était pas du tout un truc qui était valorisé, qui était porteur. Et Et on se justifiait même... Attends, non, je dis ça, mais je ne suis pas féministe. Hein. Je me souviens de phrases comme ça. Je me souviens de, du truc où dès qu'une femme l'ouvrait, on disait « Ah non, mais alors elle, c'est une grosse féministe. Comprendre, c'est une grosse chieuse. » et là, il y a une sorte de réhabilitation, en fait, des luttes et des causes féministes, hein, mmh. qui fait vraiment du bien.
Et dans le renouveau aussi, je pense qu'il y a une autre forme, enfin d'autres en fait au pluriel, formes de féminisme qui sont de plus en plus légitimées et visibles, je pense. Vous dites dans une interview, j'avais lu, le féminisme n'a pas le droit de créer un entre-soi, le féminisme n'a pas tellement le droit à l'erreur. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'avoir dit ça. Et si
oui,
vous...
ça me dit quelque chose. Alors dans quel contexte, je ne sais plus évidemment, mais oui, ça me dit clairement quelque chose, oui.
Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que vous entendiez par là ?
Bah, ce que je veux dire, c'est que quand j'étais plus jeune, le féminisme, il allait de soi qu'il était blanc, en réalité. Ça ne se disait pas comme ça. Peut-être qu'on ne le percevait même pas complètement comme tel, mais je pense qu'il y a eu de la place pour le discours féministe blanc. Mais c'est très simple, hein, je veux dire... Moi, je n'avais pas accès aux médias pendant très longtemps en tant qu'actrice. On m'expliquait, mais très tranquillement, que comme l'électrice n'était pas prête, on ne pouvait pas faire d'article sur moi. Bon, voilà, il ne fallait pas que je le prenne perso du tout, mais c'était très net et ça se disait sans aucun souci. Donc, à partir de ce moment-là, comment voulez-vous que la voix d'autres femmes que les femmes blanches soit entendue ? C'est mécaniquement impossible. Donc du coup, il y avait une incarnation des luttes féministes, qui était très monochrome. Et du coup, nos expériences n'étaient pas entendues. Les spécificités des combats qu'on devait mener, en plus du combat plus général, n'avaient pas lieu d'être. Et en plus, comme il y a une pensée qui se croit véritablement universaliste. Du coup, l'idée même de parler de nos spécificités était problématique, parce que c'était comme si on réfutait l'idée d'universalisme pour aller vers une sorte de tribalisme à la française. Donc, c'était très culpabilisant en réalité. Il y avait quelque chose de très figé et qui se croyait, qui se vivait comme étant incluant. Or, je pense qu'il n'y avait pas véritablement d'inclusion, il y avait surtout l'idée que que ce féminisme-là avait vocation à sauver toutes les femmes.
Et ça posait problème, évidemment, parce que les aspirations de toutes les femmes ne sont pas les mêmes partout.
Voilà.
Depuis que vous avez commencé à militer, est-ce que vous avez le sentiment que sur les causes sur lesquelles vous vous battez, que ce soit le féminisme, la représentation, ça a quand même changé, ou au contraire, vous avez l'impression que ça n'avance pas?
Si, moi je trouve que les choses avancent. Et alors, c'est pas parce qu'elles avancent qu'il faut baisser la garde. Mmh. Et se dire que ça avance naturellement. Alors, les choses avancent parce que les espaces où on peut s'exprimer se sont multipliés. Aujourd'hui, je fais un poste, je peux atteindre une bonne centaine de milliers de personnes sans avoir du tout à passer par la rédaction de tel ou tel magazine féminin généraliste qui pensera que c'est pas le bon moment de parler de tel ou tel sujet. Donc la dynamique, elle n'est plus du tout la même grâce aux réseaux sociaux, qui ont aussi permis à d'autres féministes, afro-féministes notamment, mais pas que, d'être, au-delà du fait d'être entendues, d'exister au sens d'être audible socialement, de faire partie d'une dynamique d'idées, d'échanges, de partage, de, je sais pas comment dire quoi, d'échange. Toutes les transformations qui sont qui nous sont apparues comme MeToo par exemple, qui est très important parce que l'incarnation par des femmes hollywoodiennes qui étaient donc censées être des femmes privilégiées, l'incarnation de cette parole-là a permis de démystifier beaucoup de choses concernant les traitements des femmes partout. D'un seul coup, on s'est rendu compte que tout n'a pas commencé avec MeToo, mais ça a été un accélérateur de particules. Et on s'est rendu compte que le problème, il était absolument dans toutes les strates de la société. Quelles que soient les positions plus ou moins favorables qu'occupent les femmes, quels que soient les territoires. Et ça, ça a permis, je pense, à énormément de femmes de prendre conscience de leur propre vécu, d'être validées, de se sentir tout simplement moins seules. Ce qui est très important dans le cas des victimes, puisqu'en général, il y a quand même un énorme sentiment de solitude et puis de culpabilité. Et du coup, voilà. Moi, je sens qu'au niveau des luttes féministes, il y a vraiment quelque chose qui bouge. Il y a un renouvellement générationnel hyper important. Et puis, il y a une vulgarisation de certains thèmes. C'est très important qu'on ait pu mettre de nouveaux mots sur certains... Enfin, le mot féminicide n'existait pas jusque très récemment. J'ai toujours entendu parler de crime passionnel. Mm-hmm. Donc, quand on vous parle de crime passionnel, vous dites que, de toute façon, il s'agit d'amour, donc ça ne peut pas être complètement négatif. C'est beau, l'amour. Et voilà. Et concernant les luttes antiracistes... moi, j'ai été extrêmement, rassurée par le sursaut planétaire qu'il y a eu l'année dernière après la mort de George Floyd, qui pourtant n'était pas le seul homme noir à être assassiné froidement sous le poids du corps d'un policier, hein, sous les caméras, enfin devant les caméras. Mais oui, d'un seul coup, il y a un écho planétaire, mondial, et quelque chose qui rassure sur la capacité de l'humanité à se mettre en mouvement pour... C'est tellement évident, quoi. Je sais pas, pour le droit à la vie et le respect de la dignité humaine au-delà de la question de la couleur de la peau, quoi. Mmh. Et puis le fait que ce mouvement s'incarne aussi dans d'autres territoires parce que la question du racisme se pose aussi, et du racisme anti-noir, s'il fallait ne parler que de lui, comme en France avec le sursaut autour de l'affaire Adama et l'incarnation absolument incroyable de ces luttes par Assa Traoré. Et puis, si je devais parler uniquement du cinéma, de la télévision, je dirais qu'on a gagné aussi beaucoup de batailles symboliques qui sont très importantes, parce que pendant longtemps, il était interdit de dire qu'il y avait du racisme dans le cinéma. Ça paraît fou de dire ça, et quand je le dis, j'ai l'impression d'être un dinosaure, hein, parce que ça parle 20 ans que les moins de 20 ans ne peuvent vraiment pas du tout connaître, et pas du tout se figurer même peut-être. Moi, c'est ce qui me faisait souffrir énormément quand j'étais plus jeune, c'est que dès que j'en parlais, on me regardait comme si j'étais une espèce d'extrémiste qui allait détruire le pays, quoi.
Et justement, à cause de ça, ça a été difficile pour vous de prendre la parole publiquement sur ce sujet ?
Non, je l'ai toujours fait, en fait. J'ai jamais... Alors, il y a eu des moments où j'ai décidé de ne plus le faire parce que j'étais fatiguée ou parce que j'avais d'autres urgences dans ma vie, d'autres trucs à régler, à gérer. Mais je l'ai toujours fait. Et je ne sais pas si vous avez vu le film que j'ai fait avec Isabelle Simeoni.
Si, si, j'ai... Oui, si.
Bah, c'est pour ça que j'ai tenu à montrer que c'est... Enfin, je pense que chez certaines personnes, il peut y avoir l'idée que c'est une sorte de lubie, comme si c'était une mode, en fait. Et que là, d'un seul coup, les minorités avaient décidé de faire chier et d'américaniser la société. Mais ça fait tellement longtemps qu'on en parle. C'est... Franchement, on est résilients, hein, parce que je trouve qu'on est... malgré tout très calme, hein, tout comme les femmes, hein, on est toujours moins bien payé que les hommes, on continue à se lever le matin, à aller travailler. Je trouve qu'il y a une capacité de résilience qu'il faut aussi saluer, quoi. Beaucoup de patience.
Complètement, complètement. Et justement, vous ne vous laissez jamais atteindre par une forme de désespoir ? Alors, à vous entendre, j'ai l'impression que ce n'est pas une option, mais...
Non, pas vraiment. Je peux être un peu agacée, je peux... Mais honnêtement, ce qui me sauve, c'est la... Comment dire ? D'abord, quelque part, je considère que j'ai déjà gagné. J'ai pas de... Des fois, j'hallucine sur les réactions des gens, de groupes, de politiques, tout ça, mais je me sens forte de mes convictions, de ce truc qui est en train de bouger dans la société... Et puis l'histoire, enfin ce que l'humanité a traversé à d'autres moments est tellement terrible et hallucinant que je suis certaine qu'on a la force, l'endurance, le ressort, la vision pour y arriver. Quoi. Enfin, je sais pas. Puis je vois aussi comment vivent beaucoup de gens sur la planète. Ça ne veut pas dire qu'il faut supporter courber les chines ici. Parce que Madame la France est bien gentille et qu'on a un système de santé vertueux et qu'on a vertueux. Vous voyez ce que je veux dire ? Comparé à d'autres endroits où j'ai pu... Le métier de comédienne, il nous fait aussi voyager. Et puis, j'ai une famille qui ne vient pas de France. Depuis petite, j'ai fait des allers-retours sur le continent africain et je vois bien ce que d'autres personnes vivent. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de s'écraser parce qu'il y a pire ailleurs, c'est de... En fait, toutes les luttes doivent être menées en même temps. Enfin, les luttes pour la préservation de la planète, les luttes pour le respect de la dignité humaine, le respect de la dignité animale. Pour moi, c'est comme si, au fond, c'était le même sujet. du respect de la vie, du respect de la notion d'égalité entre les êtres, du respect de... Enfin, voilà. Donc, non, je ne suis pas... Mmh. Je ne suis pas encore fatiguée.
Eh bien, tant mieux.
Je vais pas saouler des fois, mais bon.
Qu'est-ce qui vous a aidé, à votre avis, dans votre parcours pour développer alors cette résilience ?
Bah, je vais dire une double chose. Je dirais à la fois mes origines, pas au sens seulement ethnique, mais surtout plutôt familial, en fait, et mon héritage, et ce que j'ai entendu de mon père, ce que j'ai connu de ma grand-mère, ce que j'ai entendu de mon grand-père. J'ai plus connu ma famille paternelle que maternelle. Et puis, je dirais aussi ce qui donne l'espoir, c'est les incroyables rencontres qu'on fait entre des cinéastes qui ont des univers incroyables ou des sœurs de route. En fait, moi, je sais que sans mes copines, depuis l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, dans le travail, dans les combats féministes, antiracistes, sans mes copines, j'aurais pas survécu comme ça, c'est sûr.
Juste sur votre famille, c'est quoi justement les choses qu'elles vous ont transmises, cet héritage dont vous parlez ?
Bah, une très grande fierté. Bon, peut-être même un peu, ça confine un peu au chauvinisme. les Maïgas sont très, très, très fiers de leur nom. C'est vraiment abusé. Mais je dirais que ça a peut-être un peu équilibré dans un contexte où tout ce qu'il y avait, c'est comme ce que dit Chiwetel Ejiofor dans le film, que tout ce qui avait trait au fait d'être africain, d'être noir, était vu comme tellement négatif, que peut-être, moi, ça a équilibré.
Tant mieux. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Elsa Maïga.
Bonne chose.
Et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Si vous êtes vous-même activiste, engagé, n'hésitez pas à nous écrire sur tutoconquérirlemonde@gmail.com pour nous présenter votre projet. Activiste est un podcast entièrement produit et réalisé par Clémence Bodoc et moi-même, Esther Meunier, alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreons respectifs dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.